Après, c'est difficile de faire comprendre aux gens quels sont les enjeux de la conserver, de la préserver. Enfin, sans nature, sans pollinisation, c'est l'alimentation qui cesse. Donc, il y a une pédagogie à faire et surtout à considérer que cette nature n'est pas l'adversité, mais bien une nature qui nous soutient, nous, dans tous nos moyens d'existence.
Merci Cécile Argentin. On rappelle donc France Nature Environnement. Si les gens veulent participer, c'est une association qui accueille des bénévoles, n'hésitez pas. Et évidemment, si vous êtes juriste, vous êtes les bienvenus, c'est ça le message?
Oui, en fait, tous les bénévoles sont les bienvenus. On fait aussi beaucoup d'informations avec des scientifiques, notamment des séminaires. On rédige aussi beaucoup de choses. On est aussi présent dans beaucoup de commissions et là, on manque de recrues aussi. C'est des réunions où on porte à connaissance notre plaidoyer, si on peut dire. Et c'est important de le faire en tant qu'association de protection nature-environnement, car on est souvent un peu seul à porter ce discours-là dans des commissions où il y a 50% d'élus et 30% des services de l'État.
Agir pour l'environnement, chers auditeurs, c'est agir pour notre futur à tous et un futur vivable. Bonne semaine, au revoir.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi d'échanger. Je vous remercie beaucoup.
L'ours et la carotte, écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.
Enclavée au cœur des Alpes, avoisinant de nombreux pays, l'Autriche est un petit territoire qui incarne le cœur de l'Europe de l'Est. C'est également une terre de nature dont les trois quarts de la superficie sont couverts de montagnes, où terrain escarpé se mêle au grand lac, offrant une aire de jeu pour tous les adeptes.
C'est ces terres et cette culture que Laureline est venue découvrir et apprivoiser. Elle nous rappelle que ce pays germanophone a longtemps été un grand empire et un acteur important de l'histoire de l'Europe, conservant encore aujourd'hui de nombreuses traces de son passé.
Quand on est seul à l'autre bout du monde, il n'y a que nous-mêmes pour avancer, faire des choses. Et surtout, et c'est ça qui fait la beauté du voyage, c'est de s'ouvrir aux autres, se rendre compte que l'étranger, on n'en a pas à en avoir peur, on peut seulement en apprendre et en sortir encore plus vivant, quoi. Je m'appelle Laureline Pinjon et on se trouve à Innsbruck, qui est la capitale du Tyrol en Autriche. J'habite à Innsbruck depuis le mois d'octobre parce que ici je suis assistante de langue de français. Donc en gros j'aide les profs de français pour donner des cours dans les collèges et dans les lycées autrichiens. J'ai trouvé cette opportunité par le biais de la fac, c'est un programme international entre plein de pays, mais de formation, normalement, je suis journaliste, donc c'était vraiment une très grande découverte de découvrir et les métiers de l'enseignement et surtout le FLE, le français langue étrangère, à enseigner avec des jeunes publics. Faut savoir que du coup le programme il est plutôt ouvert pour des gens qui ont fait des études de langue, mais il y a tellement peu de Français qui en fait étudient l'allemand que l'Allemagne et l'Autriche offrent ce programme aussi, ils l'ouvrent plutôt, à aussi des gens comme moi qui ont fait des études qui n'ont rien à voir. Et aussi qui ont seulement un niveau A2 en allemand. Ce qui est important dans l'histoire, parce que dans les autres pays, par exemple, si on veut postuler en Italie, il faut déjà être niveau, je sais pas, B2 ou être bilingue en italien, connaître la culture, tout ça. Alors que moi, j'avais fait l'allemand au collège et au lycée, mais je ne connaissais absolument pas l'Autriche. Mis à part Vienne et Sissi, j'avais aucune idée de ce pays, vraiment. Et quand du coup j'ai voulu postuler, c'était vraiment pourquoi pas, ça a l'air cool, on va y aller. Pour choisir ma ville, je vais pas mentir, je suis vraiment allée sur Google Images. J'ai vu que Salzbourg, ça avait l'air joli, Innsbruck, ça avait l'air joli aussi. Et du coup, j'ai choisi d'aller à Innsbruck et c'est là où j'ai été prise. Pour venir ici, je suis partie de Lyon en Flixbus. C'était 11 heures de trajet. Et par contre, je me rappelle très bien d'être rentrée dans la vallée de la Inns, donc la rivière, qui est vraiment encastrée entre les montagnes qui culminent à plus de 3000 mètres. Et vraiment, j'étais dans mon Flixbus au bout de 10 heures. J'en pouvais plus. J'avais juste envie d'arriver. Mais j'étais ébahie devant la vallée et les montagnes, à quel point elles sont proche et genre vraiment magnifique, quoi, majestueux. C'était incroyable, cette vallée. Et en sortant du bus, tout de suite, je me suis fait la remarque que j'allais me sentir très bien dans cette ville. Et après, je suis allée promener en ville et j'ai commencé à entendre parler les gens allemands. Mais il faut savoir que dans le Tyrol, les gens parlent avec un accent tyrolien et aussi parlent beaucoup le dialecte. Donc en fait, je ne reconnaissais même pas un seul mot d'allemand. Et là, j'ai compris la galère qui s'ouvrait à moi. Je pense qu'un de mes endroits préférés à Innsbruck, c'est un peu cliché parce que c'est le truc le plus touristique de la ville, mais c'est le sommet de la Nordkette, donc la chaîne de montagnes au nord de la ville. Et on peut y aller seulement avec des téléphériques en 20 minutes. Et en 20 minutes, on a plus de 2200 mètres d'altitude. Et c'est un des tout premiers points en montagne où je suis allée à Innsbruck. Et vraiment, je me disais, bon, allez, pourquoi pas, c'est un truc de touriste, je vais quand même y aller. Je suis montée, je suis arrivée là-haut et je voyais la ville, c'était incroyable. Et en fait, en se retournant de l'autre versant de la montagne, derrière, il y a une des plus grandes réserves naturelles d'Autriche. Et juste, c'était majestueux. Vraiment, quand je suis venue, je ne connaissais rien du tout sur cette ville. Mais quand j'arrive sur un territoire, j'aime bien comprendre un peu les bases de l'histoire, savoir un peu qu'est-ce qui se passe ici, pour ensuite un peu mieux comprendre quand même les gens, les enjeux du territoire, tout ça. Donc je sais qu'au début, j'ai passé beaucoup de temps à faire un peu la geek de l'histoire, à regarder des émissions de Stéphane Bern pour comprendre l'histoire des Habsbourg, parce qu'on en parle de partout ici, moi je connaissais pas du tout. Innsbruck, c'est une grande ville, mais en même temps, c'est pas vraiment une grande ville. Dans les Alpes, on dit qu'il y a trois grandes villes, en gros. En France, c'est Grenoble, qui est la capitale alpine de la France. Du côté de l'Italie, c'est Trento, et en Autriche, c'est Innsbruck. Entre Innsbruck et Grenoble, qui sont d'ailleurs des villes jumelles, elles ont un peu la même histoire de développement, parce que Innsbruck, ça s'est beaucoup développé avec les Jeux Olympiques d'hiver, qu'elle a reçu à deux reprises. Et c'est là où, bah, notamment, il y a eu des axes de communication, des grands travaux qui ont été faits pour rendre la ville plus attractive. Et aussi, on a commencé à développer les sports d'hiver de manière générale, de façon plus ouverte aux touristes, parce que le ski en Autriche, c'est juste naturel. Les Autrichiens sont nés sur des skis. Mais avec les Jeux Olympiques, on en a fait des lieux de tourisme. C'est un gros vecteur économique. D'ailleurs, un des symboles de la ville, du coup, c'est le saut à ski qui reste encore, qui trône au sud de la ville et qui est un peu le symbole. Enfin, sur les logos de Innsbruck, tout ça, on retrouve toujours le saut à ski. Pour l'aspect culinaire, je me suis rendue à l'évidence que j'étais très française en vivant en Autriche. Parce que je me suis rendu compte que nous, les Français, on en est en fait hyper critiques de la nourriture, vraiment. Et ça, c'est un point commun que j'ai pu rencontrer avec les Italiens qui sont à Innsbruck, parce que, Italiens comme Français, on critique tout le temps la nourriture. Si quelqu'un nous dit « Ah, il y a un super bon restaurant à Innsbruck », notre premier réflexe, c'est de lever les yeux au ciel en se disant « Un bon restaurant en Autriche, est-ce que c'est possible ?» Et d'ailleurs, j'ai tout le temps cette phrase pour rigoler, mais je pars du principe que dans un pays où le plat national, c'est l'escalope panée, on ne peut pas en attendre beaucoup de la gastronomie. Et je vois même mes collègues, ils mangent des choses très simples tous les midis, une petite tartine avec une tranche de concombre, et ils sont satisfaits de ça. Mais je pense qu'un de mes péchés mignons ici, c'est quand même le Apfelstrudel, ou le strudel à la pomme, qu'on trouve dans beaucoup de pays de l'Est, mais beaucoup en Autriche. Notamment avec après de la crème à la vanille dessus qui est hyper bon. Et en plus, dans une des écoles où je travaille, c'est une école hôtelière, donc du coup, les élèves apprennent à faire à manger. Et des fois, le mardi, au menu de l'école, c'est Apfelstrudel en dessert. Donc ces jours-là, je le mange à la cantine de l'école. Une de mes activités préférées, c'est de prendre le train en Autriche. Parce que c'est juste une carte postale tout le temps. On passe dans les vallées à flanc de montagne, au bord des ravins, au bord des rivières. Et on a vraiment cette impression que c'est des petites fermes parfaites avec les montagnes en arrière-plan. Les paysages sont incroyables. Et les trains sont très lents parce qu'il y a trop de montagnes en fait. Donc du coup, ça prend beaucoup de temps parce que les TGV ne peuvent pas aller très vite. Mais je pense que maintenant ça ne m'effraie plus à partir du moment où je peux faire 6 heures de train juste aller et 6 heures de train retour juste pour un week-end. Et en plus, de manière pratique, en Autriche, ils ont quand même sur certains points une politique écologique qui est beaucoup plus avancée. Et par exemple, ils ont mis en place depuis quelques années le Climate Ticket, qui du coup est un abonnement de train mensuel Donc là, moi, par exemple, je paye 60 euros et j'ai accès à absolument tous les transports publics d'Autriche. Donc, je peux prendre le métro à Vienne, je peux prendre le bus à Innsbruck et le train autant que de fois que je veux dans le mois. Ce sera exactement le même budget. Et du coup, ça me donne une mobilité, une liberté quand même qui est très folle parce qu'en plus, j'ai même pas besoin de réserver. Donc, juste, je peux aller à la gare, sauter dans n'importe quel train et j'ai le droit d'y aller. Et vu que le train, c'est toujours beau ici, c'est incroyable. La période de Noël en Autriche, c'est vraiment le cadre un peu magique de Noël, quoi. La neige, les montagnes, les marchés de Noël, c'est vraiment hyper féerique. En Autriche, comme en Allemagne, c'est, je pense, un point commun entre les pays du monde germanophone, les marchés de Noël sont très très importants. Et dans toutes les villes, il y a des marchés de Noël. Et c'est pas du tout quelque chose de plus commercial comme on peut voir maintenant de plus en plus dans les grandes villes de France. C'est vraiment un lieu de rencontre. Parce qu'en fait, ça tombe aussi au moment de l'hiver et la nuit arrive très tôt. Et c'est la période aussi où le froid arrive. Et le froid en Autriche, spécialement dans le Tyrol, est quand même très important. Et donc du coup, en fait, le soir, en sortant du travail, au lieu d'aller peut-être boire un verre au bar, les gens vont se retrouver au marché de Noël. Donc en fait, ça fait vraiment de l'animation durant tout le temps de l'Avent, mais aussi dans la ville et dans l'hiver pour quand même sortir et quand même profiter. Les marchés de Noël, c'est vraiment toute une atmosphère. T'as vraiment des décorations de partout dans la ville, tout le temps des groupes musicaux qui peuvent être aussi bien très modernes ou très traditionnels qui jouent. Il y a plein d'activités, il y a plein de petits stands pour acheter, mais il y a tout le temps aussi la nourriture. Et surtout, il y a du vin chaud qu'on boit à gogo pour se réchauffer. Par contre, une tradition qui m'a traumatisée, en Autriche et plus particulièrement dans le Tyrol, on fête la Saint-Nicolas, mais en même temps, on fête, enfin du moins, on redoute le Krampus, qui en fait est un espèce de démon qui vient des montagnes. C'est un peu, on pourrait dire que c'est un peu la tradition du Père Fouettard en France. Donc en fait, dans les villages, le soir de la Saint-Nicolas, le Saint-Nicolas vient sur la place du village, il ouvre son grand livre, et dans le grand livre, il y a le nom des enfants, et surtout, il y a le nom des enfants qui n'ont pas été sages. Et c'est là qu'on entend les cloches des alpages, donc des énormes cloches comme on voit sur les vaches au loin. Et ensuite arrivent les Krampus qui sont des énormes démons. C'est toute une tradition, on fait son costume avec de la fourrure, des cornes et des énormes cloches de vaches du coup sur le dos pour faire du bruit. Et ils ont vraiment des bouts de bois ou des fouets et ils viennent fouetter les enfants passage sur la place publique. C'est un peu de culture judéo-chrétienne pour s'exorciser en fait de tous les péchés, les maux qu'il y a en nous pour ensuite rentrer dans la période de Noël en étant tout beau, tout parfait, quoi. Moi, c'est une tradition dont mes élèves m'avaient parlé. Je rigolais un petit peu. Et du coup, mes collègues m'ont invité dans un village tyrolien très traditionnel où là-bas, ils le font vraiment encore à l'ancienne. Et mes collègues me disaient « Ah, tu verras, moi, enfant, ça m'a traumatisée. Quand on était petit, on venait en combinaison de ski parce qu'il faut être vraiment fort, tout ça. » Moi, je pensais qu'ils disaient ça pour me faire peur. Mais en fait, pas du tout. J'ai eu des bleus le lendemain parce que je me suis pris quelques coups. Je le prenais quand même sur le ton de la rigolade, mais je me disais que pour un enfant, c'est traumatisant. Et d'ailleurs, il y a un mot dans le dialecte tyrolien pour dire qu'on a une phobie du Krampus. Et par exemple, ma prof d'allemand me disait que même aujourd'hui, elle a 45 ans, quand elle entend les cloches, elle s'enferme dans sa voiture parce qu'elle a été traumatisée enfant par cette cérémonie. De manière générale, je pense en Autriche, mais notamment à Innsbruck, on se lève plutôt tôt et on se couche tôt. Je pense que c'est un lien avec le soleil et encore plus avec les montagnes, parce que le soleil peut se coucher vraiment très tôt. Et aussi parce que les gens sont très sportifs. Donc ils se lèvent le matin pour aller faire du sport, notamment du ski pendant la moitié de l'année. Et donc la ville est assez active très tôt, mais par exemple tous les magasins ferment à 18h. Le dimanche, tout est absolument fermé. En hiver, par exemple, s'il a neigé dans les bars un samedi soir à 21h, il n'y a plus personne parce que tout le monde est au lit, parce que le lendemain, c'est ski dès 8h sur les pistes. Les Tyroliens sont très proches de leur famille, ils vivent plutôt quand même chez eux, et c'est très rare d'être invité à la maison de chez quelqu'un. C'est vraiment un espace privé où on peut pénétrer vraiment quand on devient un ami quand même vachement intime. Et par exemple, à 18h, ils sont rentrés chez eux, ils mangent et ils peuvent aller se coucher très tôt en hiver. Même dans les restaurants, on peut manger à partir de 18h. Et d'ailleurs, en hiver, si on rentre dans un restaurant à 20h30, je pense, la cuisine est déjà fermée, c'est plus le moment de manger, quoi. Les Tyroliens ont vraiment cette réputation d'être les gens les plus fermés d'Autriche. C'est un peu les montagnards qui vivent dans leur vallée, qui restent entre eux. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à être vraiment en groupe très proche. Et d'ailleurs, ils utilisent le terme « Kollegen » pour parler en fait, de connaissances. Mais par exemple, ils peuvent dire ce terme-là même avec quelqu'un avec qui ils vont pratiquer une activité physique pendant des années. Ce ne sera pas un friend, ce ne sera pas un ami, ce sera un collègue. Donc du coup, il y a des barrières qui sont vraiment mises pendant très longtemps. Et du coup, pour me faire des amis autrichiens, c'était assez difficile parce que moi, du coup, je parlais quasiment pas allemand en arrivant. Et en plus, le peu d'allemand que je parlais n'est pas un allemand de ici, c'est l'allemand standard qu'on parle en Allemagne. Et en fait, il y a beaucoup de différences. Donc, des amis de mon âge, c'est un peu compliqué, mais j'ai des tandems linguistiques avec des gens qui veulent parler français et moins allemand. Et je pense, du coup, c'est le lien le plus direct que je peux avoir avec des Autrichiennes qui ont mon âge, du moins. Et c'est hyper cool parce qu'on parle souvent justement des échanges culturels entre nos deux pays ou plus de traditions, qu'est-ce qu'on fait dans la famille et tout ça. Et ensuite, à côté de ça, vu que j'ai la chance de travailler dans des écoles, bah avec mes élèves, c'est des questions qu'on soulève beaucoup parce que moi, je leur parle de la France et eux de l'Autriche et également avec mes collègues. J'ai un cercle social qui est assez grand, mais c'est beaucoup des internationaux en fait que j'ai par mes cours d'allemand à la fac, les autres assistants de langue, et aussi parce que Innsbruck est une ville très internationale, l'université est très très dynamique et il y a beaucoup de gens de partout. Ça tisse un réseau, on a des amis qui sont slovaques, espagnols, polonais, anglais, et en fait ça c'est des amitiés qui restent pour toute la vie, et ensuite c'est ce qui fait qu'il y a toute une espèce de grand patchwork qui se crée, et d'amitié, et qui perdure, et une ouverture à la culture qui après ça se perd jamais quoi. C'est ça qui fait la beauté du voyage, c'est de s'ouvrir aux autres cultures, aux autres langues, aux autres univers, aux autres manières de vivre. Et ça, bah, ça vainc aussi la peur parce qu'on découvre l'autre. Et du coup, notamment pour moi, c'est le remède du racisme parce que c'est se rendre compte que l'étranger, on n'en a pas à en avoir peur. On peut seulement en apprendre et en sortir encore plus vivant, quoi. Et d'ailleurs, même malgré la langue, en fait, au quotidien, on n'a pas besoin de parler allemand pour survivre parce que tout le monde parle très bien anglais. Et surtout, les germanophones savent que leur langue est très difficile. Mais du coup, pour aller dans des liens plus intimes, rentrer dans la culture, tout ça, je trouve que c'est plus difficile. C'est vrai que l'allemand, je pense, a juste cette réputation d'être hyper difficile et d'être horrible. Et ça, je pense que c'est vraiment juste un cliché qu'on a des films qui viennent de la Seconde Guerre mondiale, très clairement, qui parlaient du Troisième Reich. Alors que la littérature allemande, par exemple, elle est hyper riche et l'allemand peut... Moi, je trouve personnellement que ça peut quand même être beau. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est une langue très créative parce qu'en fait, on peut ajouter plein de mots à des mots pour, du coup, créer d'autres mots. Donc, du coup, juste, on va les ajouter ensemble et ça va faire un mot de peut-être 35 lettres, mais pour en faire un autre. Donc c'est hyper créatif et hyper intéressant. Il y a plein de fois où je demande « Ah, mais ça veut dire quoi comme mot ?» Et des fois, c'est des choses très simples qui en fait ont juste une logique où on additionne plein de mots mis bout à bout et c'est très drôle. Spécifiquement au Tyrol, mais en Autriche de manière générale, ils sont quand même très fiers de leur culture et de leur tradition. Et c'est quelque chose qui est encore très, très vivant aujourd'hui et qui n'est pas du tout connoté comme étant old-fashioned ou totalement... vraiment hyper cliché comme nous on aurait en France par rapport aux traditions ou les danses folkloriques ou ce genre de choses. Donc par exemple en Autriche, spécifiquement dans certaines villes qui sont très très traditionnelles, je pense par exemple à Salzbourg, on voit encore souvent des hommes porter le Lederhose, donc genre le pantalon de cuir qui est le cliché des Bavarois mais qui en fait est très autrichien, et des femmes porter le Dirndl qui sont vraiment les vêtements typiques. Ça va vraiment être des fois l'habit du dimanche ou même porter à un mariage. Et c'est vraiment très noble de le porter. Et il y a plein de boutiques dans Innsbruck. Je pense que dans la rue principale, il doit y en avoir au moins 3 magasins de vêtements traditionnels. Et un Dirndl qui est vraiment fait main peut coûter plus de 1 500 €. Et par exemple, j'avais daté un Autrichien et il me disait dans le plus grand sérieux du monde que lui, il trouvait ça super sexy, une fille qui portait un Dirndl. Alors que je pense qu'en France, on ne dira jamais ça. Enfin, du moins de la bouche d'un jeune qui trouve ça sexy, une fille qui a une coiffe bretonne, quoi. Donc ça, c'est vraiment très drôle. Et par exemple, je suis allée au théâtre un dimanche à Salzbourg. Il y avait des gens qui étaient en Dirndl et en Lederhosen, comme un habit très habillé, très chic pour aller au théâtre régional, quoi. Thank you. c'était pour aller voir la Comédie du Bonheur, qui est le seul film qui parle de l'Autriche et qui est hyper cliché et que les Autrichiens détestent, mais qui se passe à Salzbourg. Et du coup, je suis allée le voir en comédie musicale, en allemand, au Théâtre Régional de Salzbourg. Donc c'était vraiment... Il n'y avait pas plus autrichien comme expérience, je pense. Les arts autrichiens sont très forts. Et par exemple, dans tous les villages autrichiens, dès qu'il y a des fêtes un peu typiques par rapport au calendrier plutôt agricole ou catholique, il va y avoir tous ces arts. Donc par exemple, il y a le yodel, qui est la chanson avec la voix comme font les Suisses et les Autrichiens. Je peux pas le faire parce que je sais pas faire, mais c'est genre les chants comme ça là. Du coup, la danse que font aussi les Bavarois, c'est qu'une danse masculine où ils se tapent sur les cuisses et sur les jambes, mais ils sautent tout le temps. Donc ça, par exemple, c'est tyrolien aussi, et il y a des jeunes qui sont dans des groupes pour faire ça encore ici, et c'est vraiment quelque chose dont ils sont fiers, et qui a pas du tout ce côté comme on aurait en France, je pense, qui serait vraiment connoté en mode c'est un peu le truc arriéré de la campagne, quoi. Au début, j'aimais bien, mais je me projetais pas trop. Et je pense que petit à petit, je suis en train de tomber amoureuse un peu de cette ville. Donc je souhaite y rester un petit moment, mais je pense que je partirai. Après, c'est aussi moi mes aspirations, parce que j'ai pas envie de rester dans un seul endroit quand il me reste encore le reste du monde à parcourir. Donc pour la suite, j'ai encore plein de projets et je sais pas où ils vont me mener.
Horizon partagé. HTR, c'est sur le 99.1.
Seen too many. se fue. Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra, dejando mi pecho herido. Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra, dejando mi pecho herido.
Lost a lot of time on his knee, then he silly shit, hoping it'd be mine, but he finished to quit. Each time that I meet a guy, has problems too dark to hide. I've enough of this wanker who cried in my boobs and make me suffer. No, you don't need me, you need the therapist. Already give you a lot, but now I have to fix myself, cause you suck all my energy. Transmit me your pain like a fucking STD. And now you're good, always calling when you're high. You eat all my mood. Yeah, now I'm no more blind. Now I'm no more blind. No, no, I'm no more blind. I'm no more blind. Afraid of my strength, my sadness made in breath, giving me all the stress, make me a fucking mess. Afraid of my strength, my sadness made in breath, giving me all the stress, made me a fucking mess. This was so hard, I lose my shine. I feel so sick, you were so sick on my mind. But I rewind all the memories and all the damn tears that I dropped for him. Oh, my light was grim. The dark cold for that old boy, fake his tears and grow my fears. He was so lonely, said you're pretty, I fade like butter. But did he love me? No, never. Afraid of my strength, my sadness made in breath, giving me all the stress, made me a fucking mess. Afraid of my strength, my sadness made in breath, giving me all the stress, made me a fucking mess. Oh, a fucking mess. Today I understand where was my mistake, lending my help for him, which is not awake. Voices in my head always singing, girl, it's not your fate, one day you will win. Now I have to heal, now I have to work, and I know I will, but I was damn sucked. But I'm a good fighter, yes, I'm a survivor. I will step on this path even it's harder. The road is a bit long and full of difficulties.